Question d'islam par Al-Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet inédit, jamais traité dans cette émission. C'est l'histoire, la place, l'interdit qui frappe les boissons fermentées, l'alcool, dans la longue tradition de l'islam, aussi bien d'un point de vue théorique, juridique, culturel, historique, que d'un point de vue de la prohibition de ces boissons. J'ai plaisir à recevoir pour cela le professeur Nessim Znayens. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes historien, vous êtes professeur de l'histoire du Maghreb à l'université de Marbourg. Et d'ailleurs, vous nous parlez depuis Marbourg. Et nous sommes ravis de vous recevoir pour traiter de ce sujet. J'ai lu votre étude sur ce point. Aussi étonnant que ça puisse être, l'interdit qui frappe les boissons fermentées, l'alcool, est très récent, en gros, dans l'histoire, enfin, d'une manière aussi drastique, en dépit de l'interdit canonique, en quelque sorte. Il y a une sorte de réprobation religieuse, mais qui a pu cohabiter avec une forme de licence de fait à travers l'histoire.
Oui, tout à fait. Je pense que de ce point de vue-là, il faut distinguer ce qui relève de la condamnation religieuse concernant les boissons alcoolisées, l'alcool, et ce qui relève de l'interdiction politique et l'interdiction mise en œuvre par des administrations de régimes, de pouvoirs qui se revendiquent de la norme islamique. Et il y a une vraie différence entre les deux, parce que le fait pour un souverain musulman de décréter les boissons alcoolisées comme totalement interdites, cela nécessite, on va sans doute y revenir tout au long de l'émission, mais un certain nombre de... déjà un pouvoir, une vraie administration, et puis ensuite des décisions qui sont pas seulement religieuses, mais aussi politiques et économiques. Et il y a eu quelques moments dans l'histoire, notamment au début de l'Empire ottoman, au XVIe siècle, de prohibition, mais finalement pas tant que ça, et les vrais moments de prohibition drastique relèvent plutôt des 50, 60, 70 dernières années, et évidemment sont loin de concerner tous les pays musulmans dans le monde, loin de là.
Oui, ça, vous faites bien de le préciser. Première chose, comment se fait-il qu'un tel sujet a échappé globalement, même s'il y a eu quelques études, à l'intérêt des historiens, des historiographes, des islamologues et même des sociologues? Vous êtes très peu, si je puis dire, à vous être intéressé à la place des boissons alcoolisées. Dans d'autres domaines et sous d'autres climats, il y a les fameuses drinking studies, les études concernant les boissons. Mais là, relativement à l'islam et surtout ce qu'on connaît de l'interdit qui frappe l'alcool, à ma connaissance, il y a très peu d'études.
Alors, c'est vrai, il y en a assez peu, il y en a quand même de plus en plus.
Maintenant,
c'est un champ d'études qui est en expansion. Alors, c'est pas si facile que ça de répondre à la question pourquoi il n'y en a pas eu auparavant. Je pense que, en tout cas en France, il y a eu un certain héritage d'une littérature orientaliste coloniale qui considérait que les musulmans ne buvaient pas d'alcool parce que ce n'était pas la culture musulmane et donc ce n'était pas un sujet en soi. Il y a, je suppose, une sorte quand même de cliché culturel qui fait que si jamais on s'intéresse à la place des boissons alcoolisées dans une société, on préfère plutôt aller du côté de la Russie ou de la Pologne que du côté des sociétés arabes et musulmanes. Voilà, en partie, je suppose, par rapport à cette... idée héritée pour le dire vite, de l'orientalisme, comme quoi ces sociétés sont très différentes des nôtres et du coup ne consomment pas nécessairement de boissons alcoolisées. Je rajouterais peut-être un deuxième élément qui concerne les sociétés arabes et musulmanes, mais qui concerne également l'Europe. On a toujours consommé des boissons alcoolisées, mais il y a eu dans les siècles précédents, à partir de l'industrialisation, à partir du 19e siècle et à partir d'un certain mouvement de mondialisation, une augmentation de la consommation des boissons alcoolisées. Donc finalement, ce sujet-là était présent dans les sociétés arabes et musulmanes jusqu'au 19e siècle, mais 19e, 20e siècle, mais il s'agit aussi d'un nouveau sujet dans le sens où il y a aussi plus de consommation que dans les siècles qui ont précédé par le fait de la mondialisation et par le fait d'une nouvelle façon de produire ces boissons-là.
Oui, vous avez tout à fait raison d'aborder les choses ainsi, et votre étude d'ailleurs couvre une ère ERE, et même sur une grande ère à IRE, plutôt du XVIe siècle jusqu'à nos jours, et vous êtes un fin connaisseur de ce qui s'est passé, notamment en Tunisie, sous le protectorat, et en dépit d'une viticulture encouragée, ceux qui s'intéressaient à la culture, ou aux cultures, au pluriel, d'Afrique du Nord, se sont très peu penchés, comme vous le dites si bien, sur la place du vin et des boissons fermentées dans les sociétés musulmanes, du fait qu'on pense que ça ne les intéresse pas, et pourtant s'intéresser aussi à leur agriculture, dont la viticulture prenait une place, peut-être pas de choix, mais une place.
Oui, tout à fait. Et alors, il y a un discours au moment de la colonisation, puisqu'on parle de cette période de développement de l'orientalisme, à propos des boissons alcoolisées et notamment au Maghreb, mais un discours qui est assez environnemental. En vérité, notamment de la part des colonisateurs français, mais pas seulement, c'est le fait de dire que finalement, les terres d'Afrique du Nord, et pas seulement d'Afrique du Nord, par exemple de Syrie également, étaient des terres où il y avait beaucoup de vignes dans l'Antiquité, notamment sous l'Empire romain, et les conquêtes arabes, c'est le discours que développe un certain nombre d'orientalistes, un discours très environnementaliste du 19e siècle, les conquêtes arabes auraient coïncidé à l'arrachage de ces vignes et plus généralement à une destruction de la nature, par exemple par la culture surbrûlée. Et pour ces orientalistes du 19e siècle, les conquêtes arabes auraient amené en fait la progression du Sahara et la désertification en Afrique du Nord, alors que sous l'Antiquité, ces terres-là étaient viticoles. Donc il y a un discours pour dire que, pour délégitimer finalement le projet économique, politique, agricole de ces civilisations arabes, et pour dire que la colonisation française se justifie parce que il s'agit de stopper la désertification de l'Afrique du Nord et puis de revenir à une culture qui finalement a très bien marché, celle de la vigne sous l'Antiquité. Mais dans ce schéma-là, finalement, il y a assez peu de place pour les populations arabes et musulmanes. Il y en a peut-être plus. Il y a des discours spécifiques sur les populations berbères, il y a des discours plus sur les populations juives, mais assez peu finalement sur la consommation des boissons alcoolisées. Il s'agit plus d'un discours sur la production que ces territoires-là ont fait de la vigne durant les siècles précédents.
Alors, pour revenir à l'étude que vous avez menée avec le professeur Philippe Bourmeau, l'interdit canonique, il y a tout le débat et vous le soulignez, porte sur la condamnation de l'ébriété, de l'ivresse, ou sur la finalité même de cette condamnation. De quoi s'agit-il au juste? Bon, il y a des références canoniques, à la fois dans la révélation elle-même, mais aussi dans ce qu'on appelle le corpus second, les hadiths du prophète, ses aphorismes, ses maximes, ses dires, mais ça reste une sorte de réprobation morale.
Oui, alors ben, je pense que c'est effectivement intéressant, notamment dans le cadre de votre émission, de revenir à ce qui est dit dans les textes, parce que cela influence par la suite les débats juridiques des différentes écoles et les prises de décision politiques. Alors si on revient dans ce qui se dit dans le Coran, alors déjà il y a deux choses à savoir, c'est que dans le Coran on parle assez peu de boissons alcoolisées, on en parle très peu. En tout et pour tout, il y a à peu près 4 sourates sur 114 qui en parlent et qui parlent effectivement beaucoup plus de l'ébriété, de l'état d'ivresse que de la boisson fermentée en tant que telle. Ça, c'est la première chose. On parle très peu d'alcool. La deuxième chose, c'est qu'il y a une évolution dans la manière dont on parle de l'alcool dans le Coran. Parce que vous le savez évidemment bien, mais peut-être que tout le monde n'a pas ça en tête, c'est que le Coran est une révélation qui est progressive avec plusieurs périodes, plusieurs chronologies. Et au début de cette révélation, bah, la sourate qui est la première révélée considère en fait le vin comme un don de Dieu, comme le miel d'ailleurs. C'est la sourate 16, le verset 67. Donc plutôt une vision assez positive d'une boisson fermentée. Et par la suite, les trois autres sourates qui viennent chronologiquement après durcissent le ton. Pas réellement contre les boissons fermentées, mais contre bah, les conséquences des boissons fermentées. Il y a une première sourate qui est en fait de la période de Médine, voilà, qui vient chronologiquement après, qui porte sur le vin et les jeux de hasard pour dire qu'en fait il renferme plus d'inconvénients que d'avantages. Il y a ensuite une sourate donc ça c'est la sourate 2, verset 219, la sourate 4, verset 43, dit qu'il ne faut pas être ivre quand on prie.
N'approchez pas la prière en état d'ébriété.
Exactement. Et la sourate 5, verset 90, et j'en finis là à peu près avec les évocations de l'alcool dans le Coran, dit qu'il faut se tenir éloigné des vins, mais aussi des jeux de hasard
et des fléchettes.
Des pierres de sacrifice. Voilà, il y a une série d'énumérations dans lesquelles il y a le vin, mais aussi il y a les jeux de hasard.
Oui.
Et donc, finalement, assez peu de mentions des boissons fermentées, et puis des mentions qui peuvent apparaître contradictoires, parce que d'un côté, il y a une valorisation du vin comme don de Dieu, il y a une autre sourate qui parle des ruisseaux de vin du paradis, la sourate 47, et ces faibles mentions, finalement, des boissons alcoolisées dans le Coran, a amené deux types de débats. La première, c'est est-ce qu'il y avait une contradiction entre les sourates plutôt positives à l'égard du vin et les autres plutôt non ? S'il n'y a pas de contradiction, il faut essayer de comprendre la logique d'ensemble. S'il y en a une, ça voudrait dire qu'il faudrait abroger certaines sourates. Et du coup, d'ordinaire, dans la jurisprudence, on abroge les sourates les plus anciennes. Mais c'est un vrai débat juridique de savoir si on doit abroger ou pas des sourates. Ça, c'est le premier débat. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces sourates ? Et le deuxième débat, c'est est-ce qu'on parle réellement du vin ? Ou est-ce qu'on parle du vin dans le contexte de sa consommation, c'est-à-dire l'état d'ébriété ? Et on remarque que deux des trois sourates qui évoquent l'état d'ébriété le rattachent au jeu de hasard. Donc en fait, il y a aussi tout un débat qui ensuite a alimenté les écoles juridiques pour savoir si on parlait vraiment de la consommation de vin en tant que telle ou dans un contexte plus large d'une attitude qui était mauvaise en relation avec cette consommation de vin.
Alors il y a aussi cette tradition qui dit « Vous avez dans les boissons fermentées quelques bienfaits, mais leur méfait est plus grand. » Et on s'est mis, certains jurisconsultes, à énumérer les bienfaits et les méfaits. Et même d'un point de vue purement médical, certains essayaient de voir, certains parmi les médecins, à l'époque, et je le dis sous votre contrôle, passer en revue les bienfaits d'une consommation on ne peut plus modérée, si je puis dire, de ces boissons fermentées. Encore une fois, la réprobation morale était sur l'état d'ébriété et les méfaits de l'ivresse.
Oui, alors effectivement, c'est un autre aspect des débats concernant les boissons alcoolisées. Ensuite, parmi les différentes jurisprudences, parmi les différentes écoles juridiques religieuses, c'est est-ce qu'on peut utiliser le vin en petite quantité, notamment à des fins médicales. Et vous savez, il y a globalement quatre écoles juridiques dans le Coran, le hanafisme, le chafisme, le malékisme et le hanbalisme. Et l'école hanafi a longtemps considéré, ou en tout cas une partie de cette école-là, comme elle dit, avec l'idée qu'on pouvait utiliser le vin à des fins médicinales. Parce qu'il est, et même certains docteurs de l'école chafisme aussi. Donc, un certain nombre de penseurs de la religion musulmane le considèrent parce que il y a aussi un certain nombre, les écoles juridiques sont liées à la société et il y a un certain nombre de médecins musulmans qui pense réellement au Moyen-Âge. Je pense notamment à un médecin qui est assez connu, qui est un médecin perse qui s'appelle Al-Razi, qui pense que les boissons fermentées sont bonnes pour la santé, parce qu'elles aident la digestion, parce qu'elles favorisent le sommeil, parce que c'est un remède efficace, par exemple, pour les troubles digestifs. Et donc, il ne faut pas non plus se tenir éloigné de toutes ces boissons-là, parce qu'elles peuvent avoir médicalement des bienfaits. Donc ça, c'est ensuite un débat qui est utilisé pour savoir est-ce qu'on peut quand même, dans certains cas, utiliser les boissons fermentées. Et puis, je rajouterais qu'il y a un deuxième gros débat qui, finalement, structure les différentes prises de position à l'intérieur de l'islam. C'est pour savoir, OK, on réprime l'état d'ébriété. L'état d'ébriété vient du vin. Est-ce qu'on réprime le vin en soi? Oui ou non? Et si on réprime le vin, qu'est-ce que le vin? Est-ce que le vin, c'est quelque chose qui relève uniquement du raisin? Est-ce que cela concerne la totalité des fruits qui peuvent être fermentés, le vin de date par exemple, qui dans cette région-là est assez connu? Et puis d'accord, alors on a une assez fine conscience dès l'Antiquité, dès le Moyen-Âge musulman, que le processus de fermentation produit des boissons alcoolisées. D'ailleurs, il y a un certain nombre de références dans le Coran ou dans les textes qui viennent immédiatement après sur le fait qu'on sait ce qu'est la fermentation et on sait que par exemple pour stopper le degré d'alcool, il faut bouillir le liquide, mais ça ne résout pas le débat de savoir à quel degré de fermentation du vin est un danger pour le consommateur et donc potentiellement peut donner un état d'ébriété. Et la question du degré de fermentation est liée évidemment aussi aux connaissances médicales et scientifiques que les différentes sociétés ont à une époque donnée. Et c'est quelque chose qui a été un peu alimenté par certains chercheurs, je pense à une chercheuse qui s'appelle Limor Jungmann, c'est que les différents débats juridiques, religieux autour des boissons fermentées et de ses bienfaits ou ses méfaits dans le Coran sont très reliés à une connaissance médicale, de connaissance de la distillation qui évidemment a évolué entre le 7e siècle de notre ère et le 10e, 19e ou 20e siècle. Et donc forcément, ça a fait évoluer aussi les débats religieux.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de l'alcool, des boissons fermentées dans les mondes musulmans, au pluriel, avec le professeur Nessim Znayen. Le professeur Nessim Znayen est historien, professeur de l'histoire du Maghreb à l'université de Marbourg. Pour cette deuxième partie, Nessim Znayen, il y a eu une longue tradition culturelle de poètes bachiques dans les cours califales, dans les cours princières. Et cette longue tradition chez les commensaux, pluriel de commensales, ceux qui partagent le repas avec le souverain et l'émir, des fêtes, je n'irai pas jusqu'à dire nécessairement, il s'adonnait à des libations et à des fêtes orgiaques, mais en tout cas il y a cette tradition, combinée aussi à la portée eschatologique, où comme récompense des hommes vertueux, il y a cette promesse de liqueur d'après dans les rivières qui coulent sous les jardins. l'interdit finalement n'était pas aussi drastique.
Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui est assez connu en général, c'est qu'il y a une poésie bachique, une poésie qui valorise les consommations de vin. On pense au Milieu de nuit, on pense à Abou Nouas, on pense à d'autres poètes. Qui finalement montre une certaine, en tout cas une certaine période, une certaine permissivité par rapport aux consommations d'alcool. Je pense quand même qu'il faut retenir une chose, c'est que ces poètes sont très régulièrement, notamment pour Abou Nouas, très proches des pouvoirs politiques et des plus hauts pouvoirs politiques. Et donc quand il y a une valorisation de la consommation de vin, il faut aussi le comprendre d'un point de vue de classe sociale. Et c'est quelque chose qui est connu pour l'Europe et qui peut aussi être envisagé pour les sociétés arabes et musulmanes, c'est qu'il y a aussi dans le fait de consommer un certain vin, d'avoir le droit de consommer du vin et d'avoir le droit d'avoir certains comportements liés à cette consommation de vin, une sorte de distinction sociale et l'idée que on peut se permettre, puisqu'on est socialement assez élevé dans la société, de revendiquer des libations, de revendiquer une consommation de vin complètement ouverte, de revendiquer des mœurs qui seraient qualifiées de scandale lorsqu'il s'agirait des populations, des classes populaires, mais lorsqu'il s'agit de l'entourage du calife, il s'agit de mœurs qui sont socialement acceptées. Et d'autre part, dans cette poésie-là, donc il y a une vision d'une part sociale ou de distinction sociale par la consommation de vin, et d'autre part, il y a aussi l'idée que le vin est un moyen aussi d'accéder, le vin est l'ivresse en vérité, d'accéder à Dieu, d'avoir par l'état d'ébriété, d'avoir une possibilité d'arriver à une certaine extase. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve aujourd'hui dans certains rituels de sociétés soufis par exemple.
Oui, chez les Bektachi par exemple.
N'est d'ailleurs pas propre à la religion musulmane. Il y a une littérature chrétienne aussi qui existe sur le fait que l'extase peut être comparée à l'ivresse.
Oui, je disais qu'on peut trouver dans certaines confréries ou certains ordres soufis cette idée d'une mystique à laquelle on accède une extase par l'ébriété, peut-être particulièrement chez les Bektachi, mais chez d'autres aussi. Comment l'idée de l'interdit petit à petit va s'instaurer? Alors, vous dites, notamment dans vos travaux, que c'est avec la venue des empires ou de l'empire, et tout particulièrement peut-être de l'empire ottoman, qu'il y a une sorte de souci d'ordre public et de préservation de l'ordre public, et une gestion de communauté au pluriel, dont pour certaines, la relation au vin est d'ordre liturgique, auquel cas elle est intrinsèque à la vie rituelle et religieuse de ces communautés. Et comme elles doivent être libres, dont on doit garantir la liberté religieuse, là le vin ne pose pas de problème pour cette catégorie des sujets de l'Empire.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, quand on parle d'empire et en relation avec le monde musulman, on pense assez rapidement à l'Empire ottoman, qui donc court dans sa version la plus puissante entre le XVIe siècle et le XXe siècle. Et dans l'Empire, l'un des ADN de cet empire-là, c'est d'avoir un certain nombre de populations au statut juridique très différent. Il y a des chrétiens, il y a des juifs qui font fonctionner la société, qui sont parfois très proches des pouvoirs en place. Et puis, les populations sont aussi très différentes, parce que l'Empire ottoman contient aussi bien l'actuelle Bulgarie que l'Algérie, que l'Arabie saoudite, pour citer certains pays qui peuvent se revendiquer aujourd'hui d'une histoire ottomane. Donc, c'est assez compliqué lorsqu'il y a des populations statut juridique très différents, et c'est le principe de l'Empire ottoman d'agréger un certain nombre de populations, d'avoir un code assez précis concernant les boissons alcoolisées. Et d'autre part, l'Empire ottoman n'est pas dans une bulle, elle est reliée à une mondialisation, à des puissances, notamment européennes, qui commercent avec des représentants et qui exige des traités commerciaux dans lesquels les boissons alcoolisées ont une part aussi. Donc la question est de savoir pour les pouvoirs de Mans, c'est est-ce qu'on insiste auprès des partenaires commerciaux pour interdire ou pas les boissons alcoolisées. Et la plupart du temps, parce que c'est très complexe, parce que il y a des droits de douane, des traités commerciaux et des populations qui vivent dans l'Empire, dont la liturgie, effectivement, notamment pour les chrétiens, implique de consommer des boissons fermentées. La plupart du temps, il y a une certaine permissivité qui peut, une adaptation à la norme religieuse par la taxation. Le fait de mettre des taxes sur les boissons alcoolisées, les droits de douane élevés, les taxes sur le fait de vendre ou le fait de produire ces boissons-là permet en partie de régler la question, c'est-à-dire permet de donner les apparences d'une condamnation politique tout en permettant également au pouvoir d'avoir un certain nombre de rentrées d'argent. Il y a seulement, dans certains moments de l'Empire ottoman, une prohibition stricte. C'est souvent lié à des moments de crise politique, des moments où le souverain a besoin de réaffirmer son pouvoir, son autorité, a besoin également de nouer des alliances avec un certain nombre d'élites religieuses. Et dans ces moments-là, il y a des actes qui relèvent aussi d'un certain affichage, notamment Soliman le Magnifique. À un certain moment, il fait couler des bateaux chargés de vin sur la Corne d'Or à Istanbul, mais effectivement, il s'agit plus d'un moment de communication que d'une véritable politique sur le long terme de prohibition des boissons alcoolisées, en tout cas dans l'Empire ottoman.
Alors, à l'évocation de Soliman le Magnifique, dans ma maigre petite connaissance de ce que fut son grand moufti, le cheikh al-Islam Abu Saoud, on lui avait posé la question sur la licéité du café et du ou de la, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, le boza, et aussi étonnant que ça puisse l'être maintenant, sa réponse, sa fatwa célèbre, connue, c'est que naturellement le café était licite et même la boisson dite le boza ou la boza. Et ça, c'est sous Soliman le Magnifique. Et Cheikh Abu Saoud n'est pas connu par son laxisme. Donc ce sont plutôt des périodes de l'histoire et l'aspect rigoriste ou drastique dans l'interdiction et la prohibition, j'ai appris dans votre étude, en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, ça date des années 50. Bien évidemment, en Iran, ça n'était absolument pas interdit avant la révolution de Khomeini.
Oui, c'est ça. Alors, c'est le premier pays, a priori, à l'époque contemporaine, à interdire toute boisson alcoolisée sur le territoire, c'est l'Arabie Saoudite en 1952, en sachant qu'il y a quand même des poches de consommation informelle. Dans les ambassades, on consomme de manière informelle des boissons alcoolisées. Donc, il y a une interdiction et puis il y a des contournements de l'interdit, même en Arabie Saoudite, de manière constante. Enfin, l'interdiction produit des contournements de l'interdit. Ensuite, il y a aussi la Libye au début des années 70 qui a été également dans ce cadre-là. Les personnes qui ont travaillé, c'est pas mon cas, mais qui ont travaillé sur cette montée en puissance de l'interdiction des boissons alcoolisées dans certains pays arabes et musulmans, c'est encore une fois, c'est une minorité, puisque dans la plupart des pays du Proche-Orient ou de l'Afrique du Nord, il y a un seuil légal, comme en Europe, pour consommer des boissons alcoolisées. Alors, à ceci près qu'il y a aussi des moments où on n'a pas le droit de consommer, on pourra peut-être y revenir, mais les gens qui ont travaillé sur cette prohibition très contemporaine des boissons alcoolisées insistent pour dire que c'est évidemment lié à la montée en puissance d'une doctrine religieuse qui s'appelle le wahhabisme, dont la diffusion a été aidée par l'Arabie Saoudite et par sa puissance économique, mais qu'il s'agit, selon les endroits, c'est assez complexe, parce qu'il y a souvent une convergence entre le wahhabisme, ou une certaine vision de l'islam, et puis d'autres enjeux. Par exemple, il y a un chercheur qui a travaillé sur l'Albanie, qui s'appelle Gianfranco Bria, qui dit que la montée en puissance de la prohibition en Albanie, c'est évidemment l'influence du wahhabisme, mais c'est aussi un rejet du passé soviétique. Le passé soviétique qui était assez laïque, assez permissif sur les boissons alcoolisées, et donc on rejette ce passé-là, dont le bilan est jugé négativement. Et parmi ce rejet, il y a le rejet des consommations qui étaient autorisées à ce moment-là. Une autre chercheuse qui s'appelle Elif Ebisser, qui a travaillé sur la Turquie, dit « Ok, le régime d'Erdogan, à partir des années 2000, interdit les boissons alcoolisées beaucoup plus qu'avant, où avant il y avait une vraie culture de production et de consommation de l'alcool en Turquie. C'est peut-être lié à une nouvelle vision de l'islam, mais c'est aussi lié au nationalisme. Et dans les discours des élites militaires politiques, il y a aussi l'idée que les boissons alcoolisées représentent, symbolisent le méfait de l'influence de l'étranger, la menace des impérialismes étrangers sur la Turquie. Et donc on voit bien qu'on sort du discours purement religieux pour être dans un discours aussi d'un projet politique nationaliste. Donc il y a un certain nombre de convergences entre des intérêts qui font que dans certains pays, cette prohibition des boissons alcoolisées prend, et dans certains pays, reste plutôt limitée.
Et parfois, la prohibition se fait au nom d'autres valeurs qui ne sont pas nécessairement religieuses. La Turquie de Mustafa Kemal Atatürk a été aussi prohibitionniste, en tout cas au début, et ça n'était pas au nom de la religion.
Oui, effectivement, les pouvoirs laïcs, je pense aussi à certains pouvoirs issus de l'indépendance au Maghreb, je pense par exemple à la Tunisie, et le fait de servir de l'alcool aux Tunisiens musulmans a toujours été interdit, y compris sous Bourguiba, qui était un musulman très très laïque. Parce que le fait d'interdire ou d'autoriser les boissons alcoolisées relève aussi de choix politiques et de choix de contrôle social. Dans le cas d'Atatürk, il arrive dans un nouveau régime avec une légitimité qui est encore assez limitée. Et le fait de vouloir réglementer l'ordre public est aussi un élément de faiblesse par manque de légitimité. Donc il y a un certain nombre de décisions concernant les boissons alcoolisées, qui relèvent de décisions politiques, et c'est pas pour rien que les moments les plus prohibitionnistes sont en général les moments de crise ou les moments de guerre, parce que il n'y a pas que des débats religieux, y compris dans les sociétés arabes et musulmanes, sur les boissons alcoolisées, mais il y a aussi des débats simples de comment on va éviter des attroupements, comment on va éviter des gens qui pourraient, sous l'effet de l'ébriété, s'en prendre au pouvoir de manière beaucoup plus ouverte que s'ils étaient sobres.
Oui, alors que diriez-vous de cette distinction que certains font dans les sociétés musulmanes, d'une manière générale, que le peuple, d'une manière générale, est abstinent, alors que les élites peuvent s'adonner à des boissons alcoolisées qu'elles prennent d'une manière à la fois modérée et dans le raffinement culinaire.
L'idée qu'il y a une hiérarchie sociale qui s'observe à travers la consommation, c'est une idée qui d'ailleurs ne touche pas seulement les sociétés arabes et musulmanes, mais pas seulement aussi les boissons alcoolisées. Dis-moi comment tu consommes, je te dirai qui tu es dans l'échelle de la société. L'idée aussi que les élites sont naturellement plus modérées que les classes populaires, c'est quelque chose que, par exemple, quelqu'un comme Norbert Elias a beaucoup vu pour les sociétés européennes. Donc c'est finalement un discours assez classique. Ce que l'on peut dire, c'est que les sources qui produisent des éléments sur les consommations de boissons alcoolisées dans les sociétés arabes et musulmanes sont souvent produites par des élites, avec donc du coup aussi une certaine vision, à la fois un certain mépris pour les consommations des classes populaires, et puis aussi une certaine valorisation, le fait d'assumer, de consommer certaines boissons. Ce que l'on peut dire également, ça dépend des pays évidemment, mais on observe dans pas mal de sociétés l'idée que on ne peut consommer de manière très très ouverte des boissons alcoolisées que si on appartient à une certaine classe sociale et donc on se sent détaché de la contrainte policière et on pense pouvoir assumer cela. Dans la plupart des sociétés arabes et musulmanes, il y a quand même une distinction publique-privée. L'idée que on ne peut pas interdire totalement la consommation, la commercialisation d'alcool parce que ça serait trop dangereux fiscalement, parce qu'il faudrait une administration trop puissante, mais on réglemente ces consommations-là, et notamment l'une des réglementations, c'est que les classes populaires, de manière générale, ou l'ensemble de la population, devraient s'interdire de consommer de l'alcool en public, ou en tout cas dans les sphères les plus visibles de l'espace public. Et réserver cette consommation pour le privé.
Bien. L'idée, c'est que la prohibition relevant de politique publique, ça devient coûteux. On se laisse aller. Si je parle de la période moderne et contemporaine, on se laisse aller plutôt à tolérer la consommation en privé, mais pas en public, afin de contrecarrer les conséquences de l'ivresse et l'état d'ébriété en public. Mais finalement, c'est parce que le coût de la prohibition n'était pas supportable au niveau des politiques publiques.
Oui, c'est souvent un calcul qui est fait. Hein. C'est que la consommation d'alcool, ça fait vivre un certain nombre de sociétés. La Turquie, pour ça, est un exemple particulier parce que les entreprises de production de bière étaient particulièrement puissantes dans la Turquie jusqu'aux années 2000. En Tunisie, c'est la même chose. Hein. Au Liban, c'est aussi la même chose. Les entreprises qui produisent des boissons fermentées, des boissons alcoolisées, que ce soit le vin ou les alcools forts, sont assez puissantes. Et le fait est que si on décide de mettre en place une prohibition qui soit réelle, il faut aussi un certain nombre de moyens policiers. Et dans la plupart de ces sociétés-là, les moyens policiers ne sont pas suffisants, ou n'étaient pas suffisants, en tout cas pour le faire. Donc, l'idée d'adapter le fait que c'est impossible d'interdire globalement la consommation d'alcool fait qu'on va vers des négociations. Et ces négociations sont des négociations fiscales, on taxe l'alcool, ou des négociations de moments, de lieux, de situations de consommation qui doivent être codées et qui doivent appartenir toujours au même cadre pour pouvoir être possible.
Bien. Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de l'interdit qui frappe l'alcool et les boissons fermentées dans les mondes musulmans, j'insiste sur le pluriel. D'ailleurs c'est le vôtre, cher Nessim Znayen, vous qui êtes historien, professeur de l'histoire du Maghreb à l'université de Marbourg. Et pour cette troisième partie, ensemble, j'aimerais bien revenir comme ça dans le temps. Pourquoi cet interdit-là, finalement, de nos jours, vous avez évoqué le wahhabisme, se drape dans des considérations religieuses alors qu'il ne l'a pas été. Et pourquoi, du temps où ça avait une quelconque pertinence tout à fait éculée et inacceptable de nos jours, des châtiments corporels, le buveur de vin, en état d'ébriété, devait être fouetté.
Oui, alors le fait qu'il y ait une considération religieuse pour ce qui est de l'interdit, alors à la fois les dirigeants politiques peuvent sincèrement penser que pour des questions religieuses, il est nécessaire d'amener l'interdiction de l'alcool. Et puis ensuite, ça donne une légitimité indéniable de contrôler davantage un territoire parce qu'il y a une source religieuse qui l'indique. Ça permet de faire d'une pierre deux coups. À la fois, ça permet d'appliquer sincèrement des idées religieuses que l'on possède. Et puis ça permet ensuite de mener une politique de contrôle social. Avec cet argument d'autorité religieux et musulman qui fait que c'est plus difficilement contestable par des populations. Donc voilà, il y a eu à la fois une évolution dans les débats juridiques avec cette montée du wahhabisme et puis aussi un phénomène qui est la montée des États-nations et la montée des États-nations qui veulent davantage contrôler le territoire, qui ont davantage les moyens de contrôler le territoire qu'auparavant, que dans les siècles qui ont précédé. Et dans ce cadre-là, dans certains pays, hein, encore une fois, on parle d'une poignée de pays musulmans, interdire complètement la consommation d'alcool, c'est assez intéressant. Et puis, vous le dites, cette interdiction est également drapée de « ok, on interdit, mais quel est le châtiment ?» Et ça, ça a été un débat qui a agité les différentes écoles du juridique, les différents penseurs, les différents juges, depuis le début de la révélation du Coran, enfin depuis le début de l'ère musulmane, parce que justement, c'est pas très clair également dans le Coran ou dans les hadiths donc les recueils des maximes du prophète et de ses compagnons. Et il y a eu un certain nombre de débats juridiques. Si vous voulez, je peux en parler. C'est,
oui, alors, je en vous fait, en prie. Oui. Je le dis sous votre contrôle, mais vous corrigez ou pas, on attribue au calife Ali de donner le quantum de sanctions, comme il n'y en avait pas, lorsque quelqu'un perd la raison du fait de son ivresse, il peut s'attaquer en diffamant à des femmes dites immunisées, en tout cas vertueuses, et celui qui le fait doit être fouetté. Mais il y avait peut-être d'autres raisons.
Oui, alors effectivement, c'est un hadith qui donc du coup c'est pas vraiment dans le Coran et ça a une légitimité moindre que s'il s'agissait d'un texte coranique parce que sous Omar il y a l'idée que on fixe le nombre de coups pour les personnes qui sont en état d'ébriété. Et selon Omar, on le met effectivement, comme vous le dites, au niveau des coups que l'on donne pour les gens qui font des offenses physiques ou morales à l'égard des femmes. C'est le péché de zina. Et donc ça, c'est 80 coups de fouet. Mais il y a un vrai débat juridique parce que dans ce hadith-là, on apprend également que sous le prophète, c'était plutôt 40 coups de fouet ou de branches de palmier. Et donc, cette sanction-là a été élevée par Omar à 80. Parce que c'était une manière... Alors, l'interprétation assez facile qu'on peut en faire, c'est que quand on est en état d'ébriété, on a plus de chances de s'en prendre physiquement ou langagièrement à une femme. Donc, on a mis cette sanction-là au niveau des sanctions qu'on prenait contre le péché, d'offense contre les femmes. Et le fait que ce soit un hadith et le fait qu'on apprend qu'il y avait deux types de condamnations différentes fait qu'ensuite, il y a un débat juridique. Est-ce qu'on va plutôt sur ce que l'on pratiquait à l'époque du prophète, ce que pratique Omar? Il y a des différentes interprétations. Les chafiites, par exemple, pensent qu'on doit plutôt faire une sanction moindre, c'est-à-dire celle du prophète, et d'autres pensent qu'on doit faire une sanction plus élevée, donc celle de Omar.
Donc en réalité, l'interdit relève davantage d'une construction humaine qui s'est comme ça faite dans le temps que de quelque chose d'aussi clair et qui remonte aux origines.
Oui, voilà, parce que en plus, la deuxième question qui se pose lorsqu'il s'agit de mettre en place un interdit et de mettre en place une sanction, c'est de savoir qui est-ce qu'on sanctionne. Est-ce qu'on sanctionne les hommes et les femmes en état d'ébriété de la même manière? Est-ce qu'on sanctionne les hommes libres et les esclaves de la même manière? Quand est-ce qu'on sanctionne aussi? Alors là, il y a plutôt l'idée de savoir qu'on sanctionne quand la personne a retrouvé ses esprits. Toutes ces questions-là, finalement, sont aussi assez complexes à régler et entraînent des débats juridiques. On essaie d'interpréter les différents textes et que pour chaque catégorie de la population, il y a finalement un type de sanction qu'on peut relever comme étant différent. Pour résumer, en fait, il y a quand même, dans les écoles juridiques, à quelques exceptions près quand même, un certain accord pour dire que le fait d'être en état d'ébriété est quelque chose de mauvais, notamment parce que on peut pas accomplir ses devoirs religieux lorsqu'on est en état d'ébriété. Mais une fois qu'on passe ça, il y a ensuite un certain nombre de débats à l'intérieur du monde musulman sur, ok, mais d'où vient l'état d'ébriété? quelles boissons on autorise à quel moment ou pas, est-ce qu'on autorise les boissons en petite quantité ou pas, et est-ce qu'on les autorise à des fins médicales ou pas, est-ce qu'on punit de la même manière les gens en état d'ébriété, selon aussi s'ils sont récidivistes ou pas. Donc il y a un certain nombre de questions qui n'ont jamais été véritablement réglées, parce que il y a un certain nombre d'interprétations des textes religieux qui sont l'œuvre des juristes.
Si je comprends bien, autant il y a un consensus sur la condamnation de l'ivresse et de l'ébriété, surtout quand elle est et elle a des méfaits dans l'espace public, autant il y a un dissensus sur qu'appelle-t-on ivresse, sous quel effet, quel produit, quelle boisson, etc. Donc l'affaire, si j'ai bien compris, il ne s'agit pas tant du fiqh, ce droit savant pour interpréter la loi religieuse islamique, que dans toute sa complexité, qu'une manière, et surtout avec l'évolution de l'État ou des États ou des empires, l'empire moghol, l'empire safavide, l'empire ottoman, et puis plus proche de nous, les États modernes, de juguler le comportement des hommes, enfin des citoyens, dans l'espace public, puisque in fine, dans l'espace privé, ça reste une affaire qui concerne justement la conscience des citoyens.
Oui, tout à fait. Et puis avec, encore une fois, on parle évidemment des grands empires, des sociétés qui ont été particulièrement connues, en sachant que vous avez parlé des Bektachis, par exemple. Les Bektachis représentent un quart des musulmans de la Turquie aujourd'hui. Dans la société Bektachi, il y a un certain nombre de rituels avec des consommations d'alcool qui sont tout à fait autorisées avec l'idée qu'il faut quand même respecter certains codes de consommation, mais en tout cas la consommation d'alcool fait partie des rituels religieux et des rituels du vivre ensemble. Et puis ensuite, il y a aussi des courants musulmans qui sont contre cette interdiction-là, au nom par exemple du libre arbitre. Je pense par exemple aux Moutazilites qui sont aujourd'hui plutôt représentés au Maghreb, mais qui ont longtemps été plutôt au Proche-Orient, et qui dans ce courant, alors très minoritaire, mais qui existe quand même à l'intérieur de la religion musulmane, la consommation de vin, de nabid, est autorisée dans la mesure où il peut donner un avant-goût du vin qui est promis au paradis à travers la sourate 47 qui parle des ruisseaux de vin. Donc il faut aussi avoir en tête que les différents courants musulmans sont très divers, et certains sont très fermés, mais certains également sont très ouverts par rapport aux consommations d'alcool, même lorsque ces courants sont minoritaires.
Oui, nous nous approchons du terme de l'émission. Il y a deux choses. Une question d'ordre anthropologique. Alors, on pense que ce sont davantage les hommes qui sont portés sur ces boissons enivrantes et qui font étalage de leur état d'ébriété que les femmes. Et ce n'est pas le sujet véritablement. Et qu'en est-il d'autres produits hallucinogènes comme le hashish, voire la drogue?
Le hashish, par exemple, ça a été aussi tout comme le vin a fait l'objet d'un certain nombre de débats juridiques. Je pense notamment dans le Maroc précolonial, qui a été étudié par quelqu'un qui s'appelle Mohamed Oubaïdia, qui rapporte que les différents docteurs en droit sont divisés à la fois sur la question des boissons alcoolisées, du hashish, et ensuite vers le 19e siècle aussi du thé, pour savoir à quel point le thé c'est un produit, alors pas forcément hallucinogène, mais qui change la manière dont on pense, et qui peut faire évoluer l'esprit, et notamment lorsque le musulman doit être en état de prier, est-ce qu'on a la possibilité de prendre des boissons alcoolisées, du hashish ou du thé. Tout ça, c'est des débats qui, effectivement, un peu comme les boissons alcoolisées, dépendent de considérations certes religieuses, mais aussi économiques, de savoir à quel point c'est possible d'interdire ces produits-là, et puis aussi des moments de savoir est-ce qu'il est pertinent à ce moment-là d'interdire ce produit-là pour réaffirmer une certaine autorité, en sachant que lorsqu'on interdit un produit, il y a un certain nombre de personnes, de consommateurs qui sont mécontents de cette interdiction-là. Donc on prend aussi un risque politique à s'attirer des mécontents, même dans une société dont la religion est l'islam et qui dont les textes sont plutôt contre l'état d'ébriété.
Bien, merci infiniment. Merci, cher Nessim Znayan. C'était l'émission Questions d'Islam et nous avons parlé aujourd'hui de la place des boissons alcoolisées dans l'histoire de l'islam et des sociétés musulmanes. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pierre Monteil et la réalisation est assumée par l'ami Anna Olvek.
Thank you.